Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, on ne dit pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit : Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit : Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens avec moi. Mais lui s'assombrit à ses paroles, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Ce texte commence de la manière suivante : Jésus allait partir. Il était dans un certain endroit, et voici que les bagages devaient être prêts, tout devait être réglé, et tout d'un coup, voici qu'un jeune homme vient à la rencontre de Jésus. Jésus aurait pu lui dire : Écoute, j'ai des foules à voir. Jésus aurait pu lui dire : Écoute, j'ai énormément de personnes à côtoyer. Il y a peut-être des personnes de la haute société qui m'attendent. Il y a peut-être des pains à multiplier pour 5 000, 3 000 personnes qui m'attendent. Donc j'ai autre chose à faire. J'ai des malades à guérir. Pourtant, on va s'apercevoir que Jésus va prendre le temps de répondre à ce jeune homme. Jésus a le temps cet après-midi de répondre à tes questions. Jésus a le temps cet après-midi de répondre à tes doutes. Jésus a le temps cet après-midi de poser les choses dans ton cœur, de poser les choses dans ta vie et de répondre à ces questions fondamentales et à cette question fondamentale qui est celle-ci : que faut-il faire pour être sauvé ? La Bible dit que dans le cœur de chaque homme, Dieu a déposé la pensée de l'éternité. Dans le cœur de chaque homme, il y a de manière concrète, de manière consciente ou inconsciente, cette certitude qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis, cette certitude qu'il y a une éternité avec Dieu et une éternité sans Dieu. Cette certitude qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose. Ce jeune homme va venir devant Jésus. Comment faire pour être sauvé ? Quelqu'un se pose-t-il la question ? Alors, il va venir avec la bonne attitude de cœur. Il va se prosterner. Il va l'appeler bon maître. Pour l'instant, il a tout bon. Pour l'instant, il a 20 sur 20. Il vient devant Jésus avec un cœur réellement prêt à recevoir ce que le maître va lui dire. Jésus connaissait ce jeune homme. Et il va lui dire : Écoute, tu sais ce que commande la loi ? Respecte les commandements. Honore ton père, ta mère. Ne dérobe pas, ne vole pas, etc. Et ce jeune homme de répondre : Ça, je le connais par cœur. On me l'explique depuis ma jeunesse. J'ai gardé ça depuis ma jeunesse. Il y a un truc bizarre là. Serait-il parfait ? Serait-il capable d'accomplir la loi ? Là où l'apôtre Paul explique que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu ? Non, il n'est pas meilleur que les autres. On est peut-être comme ce jeune homme riche. On connaît la foi par cœur, sur le bout des doigts. On sait exactement ce qu'il faut faire. Déjà dans le berceau de nos parents, dans les berceaux, nos parents nous expliquaient, tu sais, pour te convertir, il faut nous raconter les histoires de la Bible. Élie, Moïse et tout, on connaît ça par cœur. On connaît ça par cœur. Les classes d'école du dimanche, les moniteurs et les monitrices qui nous rabattent les oreilles avec les mêmes leçons, on connaît ça par cœur. On les a gardées dès notre plus jeune enfance. On connaît la théorie. On sait exactement ce qu'elle est. On connaît ça par cœur. À tel point que quand le pasteur prêche un dimanche après-midi, après un bon repas, on connaît par cœur le jeune homme riche. Est-ce pour autant qu'on est sauvé? Non. Jésus ne va pas faire une démonstration de théologie. Il ne va pas lui dire, en 1952, tu as dérobé une pièce d'un euro dans le porte-monnaie de ta mère. Non. La date est fictive, bien sûr. Ne va pas se lancer dans un grand discours en lui expliquant que, en fait, le péché, c'est refuser le cadeau de Dieu en la personne de Jésus qu'il est lui-même. Il ne va pas faire la théologie, Jésus. Je l'imagine en train de sourire un petit peu. Je sais pas, dans mon imagination, c'est comme ça. Et de regarder le jeune homme dans les yeux et de lui dire « c'est bien tout ça, bravo ». Mais il te manque une chose. Vous saviez qu'une chose peut empêcher d'entrer dans l'éternité? Vous saviez qu'une chose peut empêcher d'être sauvé? Peut nous empêcher d'être sauvés? Une chose. C'est rien. On peut avoir bon pour tout le reste. Une chose. Vends tout ce que tu as, tout tes biens. Et donne le profit de cette vente aux pauvres. Et ensuite, suis-moi. Et il était fort riche. Mais le problème n'est pas dans ses richesses. Le problème est dans l'affection qu'il vouait à ses richesses. Jésus met le doigt là où ça fait mal. En lui expliquant, voilà, tu veux être sauvé. D'accord. Tu penses avoir accompli la loi, tu connais la théorie par cœur, très bien. Mais il y a une chose dans ta vie qui est au-dessus de Dieu. Il y a une idole. Il y a quelque chose qui n'est pas à moi. Il y a quelque chose que tu aimes plus que moi. Il y a dans ta vie une partie de toi qui finalement entraînera tout le reste. Pour ce jeune homme, c'était les richesses. Pour vous, c'est quoi? On oublie la pratique, on oublie la théorie. Pour vous, c'est quoi? Jeune homme, jeune fille, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de rentrer dans la gloire éternelle avec Jésus? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de plier ta volonté à la sienne? Quel est le domaine de ta vie si Jésus te demandait, eh bien, donne-le-moi, offre-le-moi, qui finalement verrait un refus net et catégorique. Non, je ne te le donnerai pas. Je l'aime. Que Jésus vous le demande. Mais je suis certain qu'au fond de vous-même, une chose est venue à votre cœur. On n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Je crois que dans nos vies, il peut y avoir des bastions. Alors, vivre avec Jésus, je vais nuancer les choses. Ce n'est pas vivre en monarcat. Ce n'est pas s'enfermer dans une bulle de religiosité, passer ses journées à prier, non du tout. Mais c'est une forme de priorité de dire, Seigneur, je t'aime plus que tout. Conformément au premier commandement qui dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Jésus leur ajoutait ton prochain comme toi-même. Seigneur, je veux t'aimer toi. Parce que toi, tu n'as pas regardé aux souffrances de ce monde. Tu n'as pas regardé aux souffrances de quitter la gloire éternelle. Tu n'as pas regardé aux souffrances, eh bien, de devoir subir l'injustice des hommes. Tu n'as pas regardé aux souffrances, mais tu as regardé à l'amour que tu avais pour moi. Seigneur, tu n'as pas regardé au clou qui allait être planté dans tes mains, mais tu as regardé à mon salut. Tu n'as pas regardé à la couronne d'épines qui allait être posée sur ma tête, sur ta tête. Mais Seigneur, tu as regardé à la vie éternelle que tu allais me procurer. Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Et de ce fait, je te donne ce que je suis. Il n'y a rien qui est passé au-dessus de moi pour toi. Et dans mon cœur, je ne veux également pas, eh bien, que tu passes au-dessus. Qu'il y ait quelque chose qui passe au-dessus de toi. La suite du texte, je la trouve extraordinaire. Avant cet épisode, pardon, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus va poser un regard sur le jeune homme. Et puis, le texte nous dit qu'il l'aima. Avant de mettre le doigt là où ça fait mal, ce passage, Jésus l'aima. Pas rien ça. Jésus l'aima. On ne sait pas pourquoi. J'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il a vu en lui? Pourquoi cette petite phrase-là? Jésus l'aima. Avait-il perçu de la droiture dans le cœur de ce jeune homme? Certainement. Vous savez, on peut se tromper sincèrement. On peut se tromper sincèrement. L'apôtre Paul, d'ailleurs, l'écrira, lorsqu'il écrira à Timothée, dira « Auparavant, j'étais un blasphémateur, etc., un persécuteur, mais Dieu m'a fait grâce parce que j'agissais dans l'ignorance. » Saul de Tarse était sincère dans son zèle. Et ce jeune homme, eh bien, Dieu, Jésus va mettre le doigt là où ça fait mal, parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Si Jésus ne l'avait pas aimé, il l'aurait laissé avec sa théorie. Oh, tu crois être sauvé, ben, débrouille-toi, mon garçon. Hein. Si ça remue un petit peu cet après-midi, c'est parce que Jésus vous aime. Si la voix de l'Esprit de Dieu nous pousse et vous pousse à renoncer à ce que vous avez dans le cœur, à ce qui vous est cher. C'est parce qu'il vous aime et que ces choses-là sont en train de vous emprisonner et de devenir un lien. Jésus de rajouter un petit peu plus loin et de dire qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne ayant de grands biens de rentrer dans le royaume de Dieu. Non pas qu'il en veuille aux gens qui ont de grands biens, je le précise de suite, mais parce qu'il sait que on s'attache aux choses et que ce qui, au début, ne devait être qu'un moyen devient vite une fin. C'est vrai pour les richesses, mais c'est vrai pour autre chose. Le travail. La famille. Les amis. Les relations sentimentales. Les loisirs. Multiplie la liste, on peut la préciser. C'est pas le but. Il l'aima. Quelle va être la réaction de ce jeune homme? Il va repartir tout triste. Il va repartir tout triste. Ça m'a profondément ému lorsque j'ai lu ce texte, relu ce texte. Il va partir tout triste. Je ne souhaite pas que cet après-midi un jeune homme ou une jeune fille reparte tout triste en se disant « je suis passé à côté de quelque chose ». Mais je souhaite que une tristesse profonde selon Dieu, comme dira l'apôtre Paul, puisse saisir le cœur de quelqu'un. Que la différence entre la tristesse selon les hommes et la tristesse selon Dieu, c'est que la tristesse que ce jeune homme va subir est une tristesse qui enfonce, qui ne fait pas avancer, qui dure dans le temps, qui emplit de regrets, emplit de tristesse en disant « je suis passé à côté de quelque chose ». Souvent, cette jeune fille, je l'ai connue il y a très très longtemps dans un camp d'ado. Elle avait reçu quelque chose de la part de Dieu, je crois. On est toujours resté en contact. Et récemment, elle m'a envoyé un petit texto, ça fait longtemps que je n'avais plus. Et elle me disait « qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir suivi Jésus quand c'était encore possible. Aujourd'hui, je n'en ai plus la force. » La tristesse avait perduré. Tristesse selon Dieu est différente. Quand on renonce, quand dans notre cœur le Saint-Esprit pèse en nous en disant « Allez, vas-y, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. » Et que on le fait, c'est un petit peu comme quand on prend un scotch puis qu'on tire, vous savez. C'est jamais agréable sur le coup. Mais après, la souffrance passe. Alors, ça dure un petit peu plus longtemps parfois. Mais il y a tellement de bénédictions et tellement de grâces qui viennent derrière. Il va repartir tout triste. Et la réaction de Jésus est étonnante. Je sais pas, moi je lui aurais couru après. Et reviens ici, je vais t'en remettre une deuxième couche. Je crois que t'as bien compris là. Jésus, non. Peut-être qu'il va le recroiser parmi une foule plus tard, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais non, Jésus laisse libre. Profondément libre. De mal faire, de bien faire, peu importe. C'est les affaires de l'homme. Comme ça. Parce que Jésus n'a pas créé des clones, mais Jésus a créé des hommes et des femmes capables de distinguer le bien et le mal, capables de distinguer ce qu'il faut faire ou ne pas faire, aptes à recevoir la vérité ou aptes à la refuser. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Sors de la théorie et vis la pratique. Qu'y a-t-il dans ta vie? Est-ce que cet après-midi, Seigneur a parlé à ton cœur et te dit, allez, réponds à mon amour. Réponds à mon amour. Et que vraiment, eh bien, il y a une grâce particulière afin que vous puissiez vendre ce qui signifie abandonner, ce qui vous retient de vous approcher de Jésus pleinement, pour le trouver et pour le chercher. Que le Seigneur soit béni.